And I always ask my mother, I say, Mother, how come is everything white?
My point is, are you playing swing or bebop? Are you a sax or are you a trumpet?
I don't like jazz.
Histoire de jazz, boogie, funk rock, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire 2, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
Deuxième émission confinée d'Histoire 2 ce mercredi soir. Et finalement, on finit par se prendre au jeu du do-it-yourself et de faire de la radio un peu comme on peut sur les ondes de Radio Campus Paris. Et pour entamer ce mois d'avril, on a continué de se plonger dans les sorties de ce premier trimestre et on a choisi de s'arrêter sur une sortie du label Evenly Sweetness. C'est l'album Soleil Créole du multi-instrumentiste David Walters. Alors après son album Awa sorti en 2006, puis Home sorti en 2009, Soleil Créole, c'est un nouvel album hybride et créole qui est à la fois une pièce d'archive de sa propre famille caribéenne et une conjugaison de ses explorations. On a donc eu l'occasion de pouvoir interviewer David Walters et dans cette interview enregistrée en visio, on a parlé de créolité, évoqué de grandes dames comme Nina Simone et Cesaria Evora et aussi de l'importance du patrimoine.
Ouais, c'est bon. Parfait. Comment tu vas ?
Nickel. Et toi ?
Ça va, merci d'accepter de faire cette interview dans ces conditions. Ton album, il est défini comme étant créole. Moi, je le trouvais plus que créole, je trouve qu'il y a une hybridité qui est forte, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'influences, notamment dans toutes les productions de tous les titres de Soleil Créole. Et je voulais savoir un petit peu, pour commencer, comment tu procèdes pour pouvoir composer et rassembler justement toute ta production musicale pour faire ton contenu.
Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai une culture, à la base, j'ai plutôt une culture hip-hop. Dans la musique hip-hop, soul, funk, tout ce qui est blaxploitation. J'ai pas du tout la culture caribéenne, pure, genre zouk et tout ça. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai grandi avec Mos Def, Slum Village, Didi Premier, tu vois. C'est ça ma culture musicale. Après, il y a les grands, évidemment, les grands. Il y a Ray Charles, il y a Roy Ayers, tous ces gens-là. Et c'est la période que je préfère, Hendrix. Et aussi des groupes de rock, hein, Led Zepp, Black Sabbath, tu vois, j'ai eu des groupes de rock quand j'étais kids, j'étais batteur. Donc j'ai une culture musicale, entre guillemets, enfin, je pense, assez ouverte. Et du coup, j'aime tous ces styles de zik et moi je compose beaucoup à la guitare. J'ai besoin de composer les morceaux à la guitare parce que pour moi, une chanson, ça doit tenir piano-voix ou guitare-voix. Donc, je compose tout à la guitare, tu vois, ici, là. Là, t'es dans mon... Ça, c'est le studio que j'ai monté, tu vois, pour le confinement. Tu vois, j'ai monté un studio ici, sur la table du salon. Mais tu vois, au mur, il y a des guitares partout, là. Donc, il y a toujours une guitare quelque part, je compose à la guitare. Donc, j'ai pas de cahier des charges en me disant, tiens, je vais faire un truc Caraïbe, tatati, tatata. Non. Moi, je chante en créole parce que c'est important pour moi. Ça fait partie de mes racines. C'est de là que je viens. Et c'est une langue que j'aime bien mettre à l'honneur, tu vois, parce que le créole, c'est une langue de tradition orale. Il y a très peu d'écrits. C'est une langue qui est jeune. Et c'est une langue que mes grands-parents m'ont appris, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère. Et mon arrière-grand-mère est partie, ensuite ma grand-mère est partie, là, elle est partie il y a 2 ans. Et du coup, il y a comme un truc qui s'est passé où je me suis dit, cette langue, je dois continuer de la faire vivre parce que c'est important pour moi et parce que ça pourra l'être pour mes kids aussi. Et voilà, c'est une façon d'entretenir ma culture, de la poser, et pas de revendiquer, mais qu'elle existe, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est des langues de tradition orale, parce que l'histoire de la créolité, elle n'est pas dans les livres d'école, parce que c'est comme si c'était un pan de l'histoire qui avait été effacé. Et pour moi, c'est important de le mettre en avant. Je pourrais chanter en français, je pourrais chanter en anglais, je chante un peu en anglais de par mes racines aussi, parce que mon grand-père, il était de Saint Kitts Nevis, donc c'est une île anglophone. Donc j'ai plutôt tendance à mélanger le créole, l'anglais. Je mets très peu de français. Aussi parce qu'il y a plein d'auteurs français que j'adore et quand je vois comment ils écrivent, je me dis qu'est-ce que je vais raconter de plus qu'eux quand j'écoute La fin de leur monde de Hayam, quand j'écoute Oxmo Puccino, Perdre et gagner, quand j'écoute des mecs comme ça, des Arthur Ashe aussi, tu vois, des mecs qui manient la plume, je me dis je vais raconter quoi? Je préfère raconter ce que j'ai à dire, je le raconte en créole. Au moins, je sais que là-bas, aux Antilles, on est liés, ils comprennent. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir les interviews pour raconter le propos de mes textes. Donc, pour revenir à ta question, comment je compose a cappella ou guitare-voix?
Ok. Et tu pars de là et après tu as ta base et tu composes.
Je pars de là, après j'ai ma base et je compose comme ça, si tu veux. Bon, après, moi, je suis un grand féru de documentaires et tout ça, tu vois. Donc, je fais souvent référence aux artistes que j'aime, mais par exemple, Michael Jackson, quand il était en studio, il disait dans les reportages, il dit, mais moi, j'entends tout dans la voix. Il chantait ses rythmiques, il chantait ses mélodies. Il chantait même des fois des rythmiques. Il chantait ça et par-dessus, après, il disait au batteur, voilà ce que je veux entendre. Et c'est le batteur qui allait se mettre dans ses accents et tout. Pour moi, le premier instrument, c'est la voix. Tu vois, on est en confinement aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont séparés de leurs instruments, qui sont séparés de leurs outils. Moi, je peux composer à la voix. Je peux faire les basses, je peux faire les mélodies, tout ça. Donc, je compose souvent avec le moins de choses possible. Ce qu'il me faut juste, c'est un téléphone pour pouvoir faire des notes vocales. Et j'avoue, tu vois, et j'avoue, mon téléphone, il est plein. Il y a plus de notes vocales que de photos. Donc voilà, voilà pour ma façon de composer.
Ok, d'accord. Et donc, dans cet album, il y a vraiment énormément d'instruments.
Ouais.
Est-ce que c'est toi qui... D'ailleurs, c'est toi qui joues sur tous les titres, enfin, à part Ibrahim Malouf qui intervient et Vincent Segal, mais c'est toi qui joues sur la majorité des titres, en fait, surtout.
Alors, je joue beaucoup de choses. Je joue de plusieurs instruments. Je joue de la batterie, de la basse, de la guitare. Un peu de clavier, mais mal. Mais pour faire cet album, j'ai travaillé avec Bruno Patchwork, qui est un producteur-réalisateur. C'est important pour moi de travailler avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a un peu un recul sur. Parce que quand c'était chanson, tu sais, c'était tellement. Les artistes, on est tellement auto-centrés, genre c'est ma chanson, mon couplet, les mots, t'es là, tu veux rien couper. Alors que quand tu bosses avec un réal comme Bruno Patchwork, qui est vraiment. Aujourd'hui, c'est mon comparse, c'est le mec. Nous, dans ma famille, on l'a élu l'homme de l'année. On lui a dit chez nous, t'es l'homme de l'année parce que le mec, il est radical. En studio avec lui, on ne se pose pas de questions. Toutes les voix, c'est des prises qui ont été faites en une fois quasiment. Deux, rarement trois. Aussi parce que je voulais un album qui ne soit pas parfait, mais je voulais un album un peu. Tu vois, ces albums dans les années 70-80, c'est des albums qui ont été enregistrés en une fois, en un souffle, ou alors comme chez Studio One, le label reggae jamaïcain, j'utilisais toujours le même groupe de musique et les chanteurs, ils rentraient dans le studio, ils chantaient leurs chansons, ils avaient le droit à une prise. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien cette idée parce que tu joues ta vie, tu es sur le fil. T'as pas, aujourd'hui, avec les ordis, avec tout ce qu'on a, tu peux faire 10 prises, tu peux monter une symphonie, tu peux faire tout ce que tu veux. Et là, moi j'aime bien ce côté travailler dans l'urgence et se dire non, tu as une chance. Tu en as deux, tu en as trois max. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas prêt. C'est que ce n'est pas le moment. Et il faut faire autre chose, un truc plus simple. En fait, il faut faire ce qu'on sait faire. Il ne faut pas essayer de faire plus. Pour moi, c'est la spontanéité qui prime parce que quand tu enregistres de la musique, tu l'écrases. Tu l'écrases, tu la figes dans le temps. Et pour moi, c'est ces petites imperfections qui peuvent faire le charme et qui aussi donnent ce côté un peu vulnérable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ouais, c'est pas parfait, la voix, elle a vrillé, la corde, elle a frisé, mais c'est là. Et donc, pour revenir à ta question, j'ai travaillé avec Bruno Patchwork, qui lui joue de la basse, du clavier, très bon guitariste aussi, très bonne oreille, il m'a énormément aidé pour affiner des mélodies, pour des choses comme ça. Et donc on était comme deux gosses enfermés en studio, avec Je te joue la guitare, tu me joues la basse. Je te joue la batterie, tu me joues le clavier. Et c'était ça toute la journée. Et en gros, on faisait un morceau par jour. Donc moi, je suis quand même arrivé avec mes morceaux qui étaient écrits guitare-voix, ou parfois j'avais fait des prods, j'avais fait les beats, les rythmiques, etc. Mais ensuite, ce qu'on a fait ensemble, c'est que j'avais une direction artistique pour cet album. Je voulais que l'album, il sonne un peu 70-80, qu'il sonne un peu moderne, évidemment, avec l'histoire de loop, etc., de boucles, de samples, mais dans cette couleur 70-80 qui est très organique, très chaleureux, avec des claviers à la Fela Kuti, des Fender Rhodes, un peu comme il y a dans les Doors, des guitares, des vieilles guitares, etc. Et c'est ça qu'on a fait ensemble, on a fait une espèce de cuisine ensemble, tu vois.
La question d'après, justement, c'était ça, c'était, je disais, donc c'est hybride, mais c'est des bouts, enfin, moi, je trouve que t'as rassemblé des bouts de la culture, pas de la culture caribéenne, mais de l'Atlantique noire, en fait. ce sentiment d'entendre un croisement entre à la fois le continent américain, le continent américain sud-américain, nord-américain, Caraïbes, Afrique. Donc du coup, je me posais la question, je pense que le titre Faut bouger, il y a beaucoup d'influence. Enfin, moi j'entends un peu de musique haïtienne dedans.
Ouais, c'est ça.
Tu parlais de sample, mais tu fais un clin d'œil à George Clinton dans
Abo. Abo. Ouais, carrément. Carrément. Bah, Snoop Doggy Dogg aussi a fait un clin d'œil à Clinton, puisqu'il, en fait, Snoop Dogg, il a samplé Clinton, et Clinton, il a pompé un autre musicien, parce que ça vient encore de plus loin, donc c'est vraiment des références. Après, à un moment donné, tu sais plus. Mais c'est la culture hip-hop, c'est ça. C'est que la culture hip-hop, c'est qu'on a tous été piochés dans le patrimoine musical, souvent black, musique black, hein, dans le jazz, etc. Hier, je regardais encore un docu sur Miles Davis, là, il y a un nouveau docu qui est sorti. Et tu vois, j'écoutais, je me dis, et bon, j'ai le réflexe du sample, du mec qui sample. Hein. Je dis, oh, putain, là, il y a une seconde, il y a un son de ouf, ta, 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 ta. Et ça, c'est ce qu'on fait tous. Les producteurs hip-hop c'est notre génération. Je pense que c'est la génération avant, parce qu'aujourd'hui, il y a un autre son dans le hip-hop très, très moderne, très affûté, que j'adore aussi, hein. Mais c'est différent. Tu vois, t'écoutes De La Soul, t'écoutes des gens comme ça, et ils sont samplés, tu sens, il y a des samples partout, c'est dingue. Et oui, je me suis inspiré de tous les endroits dont tu parles, parce que c'est des endroits où je suis allé. Et le dernier voyage que j'ai fait avant d'écrire cet album, je suis allé à la Nouvelle-Orléans, j'ai bossé avec les Black Indians, j'ai produit un album là-bas. Ça m'a énormément marqué parce que c'est pareil, cet album on l'a enregistré avec spontanéité, mais parce qu'aux États-Unis il y a les racines africaines, parce qu'en Colombie, dans le Nord, il y a les racines caribéennes africaines, parce qu'au Brésil aussi, parce qu'en Caraïbes aussi, et c'est de là qu'on vient. On vient d'Afrique, les Caribéens, etc. On vient tous d'Afrique. C'est juste qu'à un moment donné, on a été déportés pour aller bosser dans les champs, enfin, nos arrière-grands-parents. Et le réflexe que j'ai eu à un moment donné, c'est de me tourner vers ces racines en me disant, mais attends, on vient tous de là-bas, quoi. Donc, oui, j'ai été aux États-Unis voir les Afro-Américains, j'ai été en Amérique du Sud, j'ai été en Afrique, au Mali aussi. J'étais au Togo, tu vois, j'étais dans ces pays, dans le pays d'Ali Farka Touré, de Toumani Diabaté, c'est important pour moi. Et cette musique, évidemment, elle résonne plus que tout, parce que moi, mon disque de chevet, ici à la maison, c'est Ali Farka Touré et Toumani Diabaté depuis des années. Et pour moi, c'est aussi fort que les Nocturnes de Chopin. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est puissant. C'est, pour moi, c'est de la musique, c'est de la dentelle. C'est une musique avec plein d'infos. Et franchement, quand je suis perdu musicalement, ça arrive, tu vois, quand t'as fait 8 heures de musique, t'as plus d'oreilles, t'entends plus rien, je me mets à Ali Farka Touré, ou alors je me mets Vincent Segal et Balaké Sissoko, et tu vois, et j'écoute ce genre de disque. Ouais, il y a les racines dedans. C'est, pour moi, c'est important. Je peux pas oublier mon histoire. Comment dire ? Franchement, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Il faut faire ce qu'on sait faire. Je ne peux pas essayer de faire plus. Je ne peux pas dire, tiens, je vais chanter comme mon idole. J'adore un tel, je vais chanter comme lui. Non, je chante comme je peux. On est ce qu'on est, tu vois. Mais voilà, de ne pas faire plus. Pas se prendre pour quelqu'un d'autre, quoi. Par contre, je sais d'où je viens. Et c'est ça qui pose le truc.
On le sent. Et dans l'album, on le sent. On sent un peu ce que tu es en train de dire là, que tes origines, enfin les voyages éventuellement que tu as pu faire, que tu t'en... il y a eu un brassage de tout ça, quoi. Moi, je voulais revenir un peu sur la langue, ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que tu t'exprimes qu'en créole, sauf en anglais pour le titre Mama, d'ailleurs.
Ouais.
C'est quoi ton rapport au créole ? Est-ce que tu le vois pas plus qu'une langue ? Est-ce que c'est pas une culture aussi ?
De toute façon, pour moi, par définition, le créole, c'est le métissage. Pour moi, par définition, déjà, le créole, c'est un patois qui a été créé pour ne pas être compris par les esclavagistes. Donc, c'est un espèce de patois. C'est un mélange d'anglais, d'espagnol, de français. Aussi, tu vois, même à Cuba, il y a du créole. Même à Cuba, j'ai vu des gens parler créole. Parce que le créole, c'est ça, c'est une langue qui était cachée. Et qui était pour ne pas être compris. Parfois, c'est marrant parce qu'il y a plein de titres sur cet album que j'avais écrit en anglais au départ. Et je me suis dit, mais non, je ne vais pas les chanter en anglais parce que je vais plutôt faire créole. Et après, tu vois, un morceau comme Buedlo, par exemple, featuring Shane Coutie, pour moi, c'était l'occasion de créer un pont entre l'Afrique et la Caraïbe. Et ce morceau, c'est un hommage à Fela Kuti, parce que Fela Kuti chantait un morceau qui s'appelait Water Not Get Enemy, on n'a pas d'ennemi. Sauf qu'aujourd'hui, les temps ont changé, et moi, je pense que l'ennemi de l'eau, c'est l'homme, parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est confiné là. Il faut être rationnel, si tu veux. Ce qui se passe en ce moment, c'est hyper grave. Hein. Je suis désolé, je fais une aparté, mais on sort du cadre, on est en train de faire n'importe quoi, on surproduit, on va trop vite. Tu vois bien, depuis le confinement, ok, on est confiné, mais on fait moins de déplacements, on pollue moins. Enfin, moi, j'habite Marseille, j'habite face à la mer. La mer, l'eau, elle est claire, les poissons, ils viennent au bord, la nature reprend le dessus. J'espère vraiment que ce qui se passe, c'est un avertissement pour tout le monde et j'espère que quand on va sortir, on vivra plus jamais comme avant parce qu'on se rend compte de plein de choses. On fait n'importe quoi. Donc, ouais, excuse-moi, du coup, je suis sorti de la question. Pourquoi c'est tellement important le créole? Mais je te l'ai dit un peu en début d'interview, c'est parce que pour moi, c'est un bagage que je veux jamais oublier. Tu vois, c'est un bagage que je veux porter. J'ai envie de m'inscrire dans la famille des artistes caribéens. Parce que quand on fouille, il y a les Vikings, il y a plein d'artistes caribéens qui racontaient leur époque. Et quand tu vas, moi je me plonge des fois dans leurs albums, dans les documentaires sur les Vikings et tout, et je comprends leur époque. Et tu vois, Nina Simone, elle disait un truc que je trouvais génial, c'est qu'elle disait, un artiste, il doit refléter son époque, ce qu'il vit. Et c'est ce que j'essaye de faire avec le créole. Et je le fais comme le faisaient les Vikings, je le fais comme a pu faire Kassab, comme fait Kassab, comme ces groupes-là. Ce qui est important, c'est ouais, ce que tu vas raconter au fond, parce que c'est quand les gens vont s'intéresser aux morceaux, à ce que tu racontes, etc. C'est là, quand ils vont creuser, il y a peut-être des codes cachés. Black Sabbath, dans le rock'n'roll, ils mettaient des messages subliminaux dans leurs morceaux. Ils mettaient des trucs à l'envers. Et c'est quand tu mets le vinyle dans l'autre sens que t'as le message qui arrive. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je pourrais pas dire en français. Il y a des trucs que je pourrais pas. Il y a des trucs que je pourrais pas dire en français, que je préfère dire en créole et que je préfère résumer en français. Quand on parle du morceau Action Cootie, ben voilà, je te raconte la symbolique. Quand tu écoutes Césaria Evora, t'as le cœur qui se fend en deux. Parce que la mélodie, elle est puissante. Et tu dis, ah ouais, ce morceau est trop beau. Quand j'écoute Calypso Rose qui chante Back to Africa, j'écoute ce morceau. Au début, je ne comprends pas. Je vais sur YouTube, je regarde toutes les versions, je vais chercher le texte, les explications et tout. Et là, je dis, ça y est, j'ai compris pourquoi ce morceau il me touche. C'est parce qu'elle raconte ça. Tu vois? Pour moi, c'est une sensibilité. C'est comme, je trouve que dans ta langue maternelle, dans l'anglais, par exemple, la langue l'anglais, elle c'est très imagée. Tu vas dire un mot et il peut y avoir plein d'images qui vont se dégager. Dans le créole, c'est un peu pareil. Le français, c'est plus premier degré. Il faut vraiment manier la plume fort pour faire passer des messages. Enfin, c'est différent. Thank you.
ça, l'amour ça là, c'est danger. Nous savons nous aimer en pile, on nous parle et fait un deal.
Palais de David Walter sur Radio Campus Paris, où il est accompagné notamment d'Ibrahim Maalouf. Vous êtes toujours dans votre émission Histoire 2.
Histoire 2 sur Radio Campus Paris.
Dans cet album, tu le mets en avant aussi par le biais de ton héritage. J'avais une question, alors je la démarre avec une citation qu'on dit aux Antilles, c'est « J'en siffle, t'es là avant d'en et qui veut dire « il faut respecter les anciens ». Respecter et considérer les anciens. Peut-être que je peux te poser la question, toi, c'est quoi ton rapport justement aux anciens, que ce soit tes grands-parents ou autour de toi, tes arrière-grands-parents, etc. Et comment tu l'as intégré dans ta carrière d'artiste, plus que dans l'album en plus.
Tu sais, j'ai le souvenir de, c'est vieux, hein, mais mon arrière-grand-mère qui me faisait visiter le village d'où elle venait, c'est Morne-Rouge en Martinique, c'est dans la montagne. Et en fait, elle me baladait en voiture et j'y allais l'été, donc elle me fait visiter. Et puis un jour, elle passe devant une maison, très belle maison, et elle me dit, bah, tu vois, c'est là que j'ai bossé, j'étais servante ici. Et tu vois, j'étais tout petit, c'est marrant, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, quoi. C'est vraiment un truc qui m'a marqué. Et comment j'intègre tout ça, c'est que, encore une fois, je peux pas oublier ce que mes grands-parents, ce que mes arrière-grands-parents ont vécu, mon héritage, c'est que je suis en vie dans un pays qui est libre et démocratique, et je fais toujours référence aux anciens, parce que je peux jamais oublier d'où ils viennent, ce qu'ils ont subi pour que nous, aujourd'hui, on soit libres. C'est un peu ça que je sais pas que je mets en avant, mais c'est comme une étoile du berger, quoi. C'est un truc qui est là, qui est en moi, qui me guide et qui je peux pas oublier. Je peux pas oublier, si c'est pas possible, quoi, tu vois. C'est trop dur ce qui s'est passé et ce que j'aime pas, c'est que c'est comme si ça avait été effacé de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ma façon de résister, c'est de continuer de garder cette culture et de la mettre à l'honneur.
Et d'ailleurs, du coup, le titre Mama, il s'adresse plus à ta mère ou ta grand-mère, ou ton arrière-grand-mère?
Ma grand-mère. Ouais, ma grand-mère. En fait, c'est la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère, malheureusement, et à son âme. Mais elle est venue chez moi, à la maison, et puis je savais pas que c'était la dernière fois que je la voyais. Et le jour de son départ, je lui dis, mais mamie, attends, tu viens au studio, je voudrais te poser quelques questions et tout. Donc j'avais mis un micro, tu vois, au plafond, et j'enregistrais dans la pièce, et je lui posais plein de questions. Je lui posais des questions sur l'histoire de la famille, sur son histoire, sur tout un tas de choses qui concernent la famille, nos racines, etc. Et puis elle m'a dit, mais voilà, n'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais qui tu es. Et c'est ça qu'elle dit à la fin de Mama. C'est ça que j'ai enregistré. Et je savais même pas. que c'était la dernière fois que je la voyais. Je ne savais pas parce qu'elle me paraissait être en bonne santé. Elle est morte 2 mois après. Et ouais, c'est une façon de lui rendre hommage.
Et en écoutant le titre, je pensais à la figure du poteau mitan. Je sais pas si tu connais aux Antilles, qui est très présente. Bon, après, elle est remise en question par des courants féministes, mais elle est quand même très présente et très forte. Toi, comment tu l'intègres un peu cette figure du poteau mitan
Bah moi, je l'intègre pas. Ça fait partie de ma culture. Pour moi, les femmes dans notre famille, enfin dans ma culture, les femmes, c'est les bosses. C'est les patronnes. C'est elles qui tiennent la famille. Souvent, elles ont élevé les enfants toutes seules. C'est des femmes, c'est à l'image de Taubira, tu vois. C'est ces femmes indépendantes, guerrières, qui sont debout et qui sont le socle de la famille, tu vois. C'est ça pour moi, la femme potomitan. Donc, il n'y a pas. Pour moi, c'est valable dans toutes les cultures. Un esprit, pour moi, la femme, c'est la patronne sur cette planète.
J'ai encore une question sur tes collaborations dans l'album. Shion Kuti, on en a parlé un peu, donc du coup, je pense que tu as fait ce choix par rapport justement à l'hommage que tu voulais rendre à Fela pour Water ouais, Nugget Enemy. Ouais.
Exactement.
Et Celia Wa, parce qu'on l'a interviewé, nous, à Histoire 2, il y a 2-3 ans, je crois, pour le, avec le projet XP4io, avec Kazay et Sonny Troupé. Du coup, on est curieux un petit peu avec l'équipe d'Histoire 2 de savoir comment ça comment s'est faite cette collaboration.
Je la connais depuis plus de 10 ans, Celia. C'est vraiment une pote de longue date. C'est comme si c'était ma sœur. D'ailleurs, on a vraiment un truc de ouf. C'est que, bah, en plus, elle joue avec moi dans le trio. Donc, je l'ai pris sur scène avec moi. J'ai demandé si elle voulait bien intégrer le groupe. J'écris des textes avec elle parce que je bosse beaucoup avec des auteurs caribéens. J'écris souvent à deux mains. Donc, j'écris souvent avec quelqu'un parce que ça me permet d'amener, un angle, tu vois, t'écris à deux, du coup, t'as deux points de vue. C'est comme si t'échangeais. Et je l'ai rencontré parce que j'étais invité sur des bœufs avec Vislo de Saiyan Supakru. J'étais invité dans des bœufs qui s'appelaient Salade Composée, où on était des musiciens et on devait improviser sur des danseurs. Et Celia, elle faisait partie des danseuses. Et puis, je kiffais, tout, ça fut traversière. Puis à un moment donné, je me souviens, j'avais fait des films au téléphone, des loges et tout. Et puis, des années après, je retombe sur les vidéos. Je fais putain, mais c'est vrai, il y a Celia, je voudrais l'inviter. Bien avant que ce soit cet album. Hein. Et puis, j'avais écrit ce morceau Lady qu'on interprète tous les deux sur l'album. Et puis, j'avais envoyé à l'époque et je lui avais dit, viens, on essaye de faire un truc. Mais j'avais pas de projet d'album, c'était vraiment pour faire un truc avec elle. Et puis, elle a commencé à poser des voix. Et puis, c'était sympa. Et puis, après, j'ai pas fini parce que je sais plus, j'ai sorti à Wa ou un autre album. Je suis parti en tournée. Enfin, bon, après. T'es pris dans la vitesse de ton projet, puis t'oublies. Et puis, quand j'étais en train d'écrire celui-là, je dis, putain, c'est vrai, il y avait ce morceau avec... Et la mélodie m'est revenue. Tu sais, comme des fois, t'as des trucs boomerang qui te reviennent comme ça. Et j'ai la mélodie qui me revient. Oh, lady, I love the way you kill me. Et je me dis, waouh, ce morceau, il faut que je le ressorte des tiroirs. Je le ressors, je le reproduis avec un copain, et je l'envoie à Celia, et je lui dis, j'ai reproduit le morceau, viens, il faut qu'on le finisse, je lui envoie le morceau, et elle me dit, franchement, je préférais l'autre version que tu avais faite, la première. Donc j'ai ressorti la première, je lui ai envoyé, on a fait les voix, et on a refait le duo, quoi. C'est une pote de longue date. Oh lady, I love the way you love me, you kill me.
Peut-être la dernière question que je voulais te poser, c'était pourquoi tu as fait le choix de reprendre Messi Bondier sur cet album?
Parce que c'était comme un reset, en fait. En fait, Messi Bondier, je l'ai appris avec ma grand-mère, je l'ai mis sur mon premier album. Et quand j'ai commencé à bosser avec Bruno Patchwork, le réalisateur de mon album, en fait, il m'avait contacté pour ça. Il voulait faire une reprise de Messi Bondier. Donc, quand je suis arrivé chez lui au départ, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai fait sa reprise. Il m'a posé l'instru, j'ai pris le micro, je lui ai chanté le morceau un quart d'heure avant d'aller prendre un train, parce qu'on avait oublié, tu vois. Et comme le morceau, je le connais par cœur, il m'a fait écouter une fois l'instru, j'ai pris le micro, j'ai chanté mon truc. Et, Et après, il m'a dit, putain, il faut le mettre sur l'album, la version est trop bien et tout. Je lui ai dit, mais putain, Bruno, j'ai déjà fait sur le premier album. Ouais, mais elle est bien. Je lui ai dit, bon, ok, on le remet. Et en fait, c'est un reset. Si tu écoutes la première version et celle-là, c'est pas du tout la même, puisque j'ai grandi. Ma voix, elle a changé. Je suis plus, je sais pas, il y a un truc qui est moins scolaire, en tout cas. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai reprimé Si Bon Dieu, c'est une sorte de reset, tu vois, une sorte de truc où on remet les compteurs à zéro. Il fait chanter la même chanson à un mec avec 10 ans de. 10 ans, il y a 10 ans qui passent. Bon, ben voilà.
Merci, bon Dieu, garde tout ça la natipoté pour nous. Merci, bon Dieu, garde comment la misère finit pour nous. La pluie tombée, Marie poussée, tout un homme qui gongou, va aller manger. En nous danser mambo, en nous danser pétro. Papa, bon Dieu, qui n'en sait la misère finit pour nous. Misère a fini pour nous, misère a fini pour nous, misère a fini pour nous, misère nous finit. Misère a fini pour nous, misère a fini pour nous, misère a fini pour nous, misère nous fini. Merci bon Dieu, merci bon Dieu, merci bon Dieu, merci en pire. Merci bon Dieu.
C'est vraiment une famille, je te jure, c'est un truc fort. C'est très rare. C'est très rare et moi je préfère être dans un petit label parce que Evenly Sweetness c'est un petit label et je préfère 200 fois être dans un petit label comme ça où il y a vraiment un esprit, il y a vraiment un esprit quoi. Je suis sur un truc de patrimoine, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant et on me donne la chance de le faire dans le label dans lequel je suis, donc c'est cadeau.
Peut-être que. Ben merci déjà d'avoir répondu de façon aussi sincère à toutes mes questions.
Mais je t'en prie, avec plaisir.
Peut-être que tu peux conseiller aux auditeurs et auditrices qui vont nous écouter un titre, un artiste ou un album que tu écoutes en confinement ou.
Ouais, mais alors je sais pas si c'est la génération campus, mais ce qui est sûr, c'est que. Bah, j'écoute énorme Bill Withers en ce moment, très fort parce qu'il vient de nous quitter. J'écoute beaucoup Manu Dibango parce qu'il vient de nous quitter et qu'il nous a laissé une discographie énorme. Et j'écoute beaucoup, pour ceux qui aiment le hip-hop, j'écoute beaucoup Slum Village, l'album Fantastique, volume 1. Je l'écoute en boucle.
It's the 788, DTM, just like Jake the Snake. Actually, we don't participate, but if you do, then I'ma see you at your way. Don't let the drama fluctuate, I don't wanna, I gotta, we cooking sex. Now where would we be at if we let you do that? We probably be laying on our backs. Talking this and that, you want my, you plan ya, it was whack. I never would clean myself out like that, but I guess that's where you at. That's where you at. What I'ma do is like, call out your whole crew cause your crew likes to bite us. Y'all stick to freestyling cause y'all ain't no writers. Trying to be something and can't play the game. See ya. Sound the same man you claim to be something you ain't. It won't be without SP.
That's right.
I need to be smacked open hands.
Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
C'était donc l'interview de David Walters. Merci encore à lui. Je vous le rappelle, son album Soleil Créole est disponible et est sorti sur le label Evenly Sweetness. Alors après cette interview, dans laquelle on a d'ailleurs parlé de samples, c'est Ronnie qu'on va écouter maintenant.